Le retour de Radio X.
Radio. X.
Welcome to the jungle, baby. Welcome to
le retour de Radio X.
Avec DH, Jordan et Mel Trudel.
Radio X.
Yes, 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 c'est vendredi. Ça a passé vite cette semaine-là. Quand t'es en bonne compagnie avec Jordan, avec Tibok, puis Mélanie, puis des bons invités, c'est le fun, ça passe très, très vite. Et surtout, les auditeurs, cette semaine, ils se sont laissés lousse un peu sur le texto, sur le téléphone. Parfois, ils n'étaient pas d'accord avec nos propos. Ça, c'est correct, ça fait partie de la
souvent,
game.
Souvent, oui, quand même.
Oui, souvent. Ouais, tu me dis, ouais, 80 % mais 90 % qui n'étaient pas d'accord avec ce que je disais, pareil, hein? C'est ça, hein?
Ouais, mais on aurait un problème si tout le monde était toujours d'accord.
Oui, ça serait plate.
Hey, ça serait
ça,
plate
serait ça le problème. Moi, oui. Faire de la radio avec du monde qui pense tout le temps comme soi-même, là, c'est plate, ça. Jordan?
Oui?
C'est-tu un bon vendredi? Ça va-tu?
Très bon vendredi. Oui. J'ai dormi cette nuit. C'est le fun.
Bon,
les deux jeunes enfants, tu sais, c'est quoi? Hein?
Oui.
Des fois, c'est comme deux heures et demie, mais là, un matin, on s'est réveillé, puis ça, c'est rare que ça arrive, le soleil est élevé.
Oh!
Ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. Seulement, je me réveille, il fait bien noir.
T'as mis du gin dans les petits breuvages de tes deux kids. T'as dit, ils vont dormir cette nuit.
T'avais dit que ça restait hors d'onde, cette histoire-là. Mais ouais, ça a bien dormi cette nuit, je suis content.
Ça a bien dormi. Bon, mais tant mieux. Hey, merci aux auditeurs d'être là. On va être là, nous, jusqu'à 18h avec des bons invités. Bon, on commence en grand. Tu sais, toi et moi, on aime beaucoup le hockey. Puis des gars qui ont fait quand même du hockey de très haut calibre, c'est toujours intéressant. Puis samedi, le National, je vous l'ai dit cette semaine, reçoivent. Ça va bien, on t'a gagné ça hier à Saint-Hyacinthe.
Ben oui, hein? On approche de la victoire.
Là, faut remplir la cabane samedi. C'est à l'ancienne Lorette, c'est à 19h. Arrivez pas là à 8h30 comme samedi passé. Vous allez avoir manqué la moitié de la game. C'est à 19h. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils vont souligner l'apport de Yannick Lehoux qui a une vingtaine d'années d'hockey dans patins. Il est en face de moi. Salut Yannick, comment ça va?
Salut, ça va bien toi?
Yes, c'est-tu officiel que t'as accroché les patins dans ce qu'on s'appelle le niveau compétitif?
Oui, j'ai repris ma retraite. Ouais,
oui, parce que t'avais arrêté toi là. Là.
Ouais,
toi t'as
ouais.
commencé là, junior majeur en 98 jusqu'en 2016.
Ouais, en 2016, j'avais joué comme une dizaine de matchs, je pense. Là. C'est toi qui es le spécialiste des stats, tu pourrais me le dire. Là, mais je pense que.
NHL, ça?
Avec Ted Ferd, j'avais joué une coupe de game avec.
Avec Bobby Barry.
Avec le beau Bobby.
Ben oui. Bobby qui donne des shows après game, hein, ben sur oui, ses ben vidéos. Oui, ben oui.
Il était allé à l'école de Richard Martel. Hein, fait que moi, c'était Richard, puis Bobby était assistant coach avec moi à Bécomo. Fait que
c'est vrai, c'est un gars. Ils habitaient à Bécomo,
ben
à
oui,
Bobby.
Oui, c'est ça. Il m'a coaché pendant 2 ou 3 ans, Bobby, là-bas. Fait que c'est pour ça que quand j'ai terminé ma carrière professionnelle, si tu veux, là, en Europe puis aux États-Unis, Bobby il avait fait un peu de maraudage. Puis il m'avait dit viens donc jouer avec nous autres une coupe de game. Fait que j'avais joué un peu à Tedford avec Bobby. Puis après ça, j'avais comme décidé d'arrêter là, le hockey. Puis l'année passée. On m'a sorti de la retraite, puis on a vécu une belle expérience avec la nationale.
Tu y as-tu pensé avant de revenir ou c'était un go oui instantané?
Ah non, c'était un non instantané. Moi, c'était Éric Lesage l'année passée, là, qui est un de mes amis, qui est un chum à Jim Gagné aussi, qui a « viens donc », tout ça. Puis au début, aucune chance. Puis finalement, après 2-3 conversations, puis... avec mon cousin qui s'était offert de me faire un programme d'entraînement, tout ça. Ils m'ont convaincu. Puis je suis pas déçu, ça a été super le fun. Puis,
t'as donné des bonnes games, Yannick. Moi, j'ai vu plusieurs de tes games l'an passé. Mais trouvais-tu, quand t'es revenu là, après une couple d'années, là, trouvais-tu que les jeunes, ça allait vite un peu parfois? Là?
Pas parfois, toujours.
Toujours.
Ah non, ça patine t'sais, dans cette ligue-là. La plus grande différence... exemple, entre la East Coast, peut-être, puis la Ligue nord-américaine, c'est que le fait qu'on ne pratique pas à tous les jours. Fait que ce qui change, c'est qu'il va y avoir des petits détails, exemple l'exécution, les passes, 2-3 trucs comme ça qui peuvent être peut-être un petit peu moins rapides. Mais côté vitesse, c'est pas bien loin de ce que c'est. Là, fait que c'est du bon hockey. Puis je pense que l'année passée, il y a bien du monde que ça faisait longtemps qui se souvenait des années du Radio X, justement, à l'époque, qui n'avait peut-être pas revu du hockey à Québec semi-pro. Puis qui ont été surpris de « Hey, tabarouette, ça patine. » Surtout que la Ligue est assez rajeunie. C'est un autre style de jeu un peu qu'on a maintenant dans la Ligue nord-américaine. C'est un peu moins...
Tu peux accéder ces bagarres.
Un peu moins. Là. Il y en a encore un petit peu, mais c'est peut-être plus normal.
Elle m'a dit, j'en ai vu une hier à Saint-Georges, c'était pour hommes.
Ah non.
Amel contre le bagarreur de Thetford, là. C'était pour homme. C'est pas que ça a duré longtemps, mais j'aurais pas aimé avoir ces deux, trois taloches, moi, d'Amel. C'était un tough, Amel, là.
Ben oui.
C'est-tu le tough de la Ligue, peut-être, là? Ou,
Il laisse pas sa place, en tout cas.
Oui.
C'est certain que lui, la fille avec
la
nous
fille,
autres, il est capable aussi. Mais écoute, PC Labrie, il est plus là pour ça. mais PC, le samedi passé,
oui.
Je pense que ça fait partie des éléments. J'ai dit à PC, c'était au match samedi passé, puis j'ai dit... La victoire, comme il a contribué, moi, deux jeux, la bagarre, que là, ça envoie un message clair à tout le monde que je suis pas ici pour « I'm not here to fuck around ». Comme si ça vous tente, moi, ça me tente.
Je vais danser, là, moi aussi.
Puis je pense que le dernier but, le but gagnant, il est en avant, puis il est avec le même gars contre qui s'était battu, puis il le dérange, puis l'autre, il se vire de bord, il oublie le gars, bang, on score à cause que... Puis ici, il était là, puis il dérangeait, puis il était dans sa tête. Là. Fait que ces deux jeux-là... Pour moi, c'est ça résume la game. Là. C'est pour ça qu'on a gagné samedi passé.
Ben, je l'ai dit, moi, j'ai vu, il y avait un trio. Là. T'avais Michael Chaput,
ouais.
T'avais PC, puis t'avais Francis Paré.
Ouais.
C'était comme un trio NHL.
Ouais, ouais.
C'était samedi passé, puis ils nous ont donné vraiment du bon hockey. Là, t'es pas seul. T'es seul ici en studio, mais au bout du fil... Vas-tu nous annoncer une nouvelle signature du National? C'est quoi, là?
Ouais? Non, je pense pas.
Mais présente-nous-là, là, parce que c'est ton body, je pense, que vous connaissez depuis longtemps.
Exact. Dans le fond, on a un de mes amis que moi j'appelle Grum parce qu'il était toujours le matin, il est toujours de mauvaise humeur. Fait qu'il est grumpy. Fait que c'est pour ça que moi je l'appelle amicalement mon petit Grump. Mais David Desharnais, on est amis depuis qu'on a joué ensemble là, avec
les Bulldogs.
Les Bulldogs d'Hamilton à sa première année dans la Ligue américaine. Puis on a toujours resté amis depuis ce temps-là. Puis tu m'avais demandé de peut-être avoir un collègue, un ami avec moi, puis je me disais, avec la saison du Canadien, comment que ça va aussi, ça pourrait être le fun d'avoir Dave avec nous autres.
David, salut!
Salut, monsieur. Salut, ouais. Yano. Moi, je l'appelle Yano.
Yano. Bon, on ne savait pas ça. On ne le savait pas, David, qui était un bougon le matin, toi, là.
Ouais, ben ça, c'est dans les années... dans mes vieilles années, là je suis sunshine in the morning. Là, c'est incroyable.
OK, là, tu bougonnes plus, là, le matin. T'es de bonne humeur, là.
Ben non, ça serait montrer un mauvais exemple à mes enfants quand même.
Bon, hey, merci d'être avec nous, David.
Ben, merci de l'invitation.
Les gars, vous êtes rencontrés les deux, là. Ça commençait avec le Bulldog, 2008-2009, je pense.
Ouais.
J'ai regardé vos statistiques. Vous avez fini à deux points de différence.
Ouais.
Puis vous avez fini premier puis deuxième. Là. Mais là, je ne sais pas c'est qui était le premier puis le deuxième. Là.
Ben, Yann
était premier.
Officiellement, le nom sur le trophée, c'est David. Il, à la fin de l'année, il avait mis son nom à Dave, tu t'en souviens? Ton nom était sur le trophée, mais...
Comment ça? T'avais deux points de plus quand même.
Oui, c'est ça, exact. Mais c'est pas grave. Mais dans le fond, cette année-là, c'était tout à l'honneur à David parce qu'il arrivait de la East Coast.
Ouais.
Il y avait une année incroyable dans East Coast. Puis il a commencé l'année, il était sa quatrième ligne. Puis à la fin, ben il a comme un peu pris ma place. Tu sais, comme David, il a eu une année incroyable. Puis c'est pour ça qu'on s'est chauffé parce que plus que l'année allait, mieux qu'il jouait, puis plus mieux qu'il performait. Puis à partir de là... The rest is history. Là. Y a eu
David, tu dois être fier parce que tu fais partie un peu comme... Je pense que c'est Martin Saint-Louis qui n'avait pas été repêché aussi. Hein? Ça se peut-tu? Oui,
exact.
Tu fais partie des gars qui n'ont pas été repêchés et qui ont quand même une maudite belle carrière dans la Ligue nationale. Là. Tu dois être fier de
non,
David.
Non, je suis très fier. Mais pour revenir avec Yann, là, cette année-là, il a été super gentil aussi. Là, on était assis à côté. Il m'a montré plein de trucs, plein de choses, comment être un vrai professionnel. Puis à la fin de l'année, quand on fait un petit peu moins de sous dans ces places-là, j'avais mon rent là, qui finissait, ma maison que je louais qui finissait. Puis il était assez gentil pour m'inviter à habiter chez lui pendant deux mois avec lui. Puis sa femme à l'époque, puis j'étais bien gâté de ce côté-là aussi. Fait que Yann, il y a eu un impact positif sur ma carrière, puis je le remercie encore aujourd'hui.
C'est quoi la différence, Yann? Il y a une question là, pécuniaire, salaire, là, nationale puis américaine, mais c'est quoi les grosses différences entre les deux ligues? Si on oublie le salaire, là,
Ben, c'est certain que Dave, il pourrait plus en parler encore que moi pour y avoir goûté plus, mais je pense que c'est vraiment l'exécution. T'sais. Fait que pour certaines personnes, moi, des fois, je trouvais pas nécessairement, j'ai pas joué beaucoup de matchs, mais je trouvais pas ça si dur parce que justement, quand t'es ouvert le pas qui vient, quand il y a un gars qu'il faut que tu lui donnes le puck, ben comme si t'es capable de faire les jeux, le tempo, il est vraiment plus vite. On parlait vite en entrée d'entrevue tantôt.
Ben oui.
Le East Coast, le semi-pro, c'est qu'on s'entend, c'est pas... c'est un autre niveau, mais oui. C'est l'exécution, c'est ça. C'est que tous les gars sont sharp, puis il n'y a pas de place, il n'y a pas d'espace. Mais si t'es bien placé, le puck va venir aussi. Là, fait que moi, c'est vraiment l'exécution. Je sais pas de toi, Dave, comment que...
Ben quoi, entre la Ligue américaine et
ouais, la Ligue nationale. Si on oublie le salaire, là, c'est quoi la grosse différence selon toi?
Oui, ben c'est sûr que le salaire, c'est déjà une bonne...
Ça, j'ai aucun doute. Là.
L'oublier, là, mais...
l'avion, ça marque, l'autobus hein. Aussi.
Oui, l'avion, l'autobus, les hôtels, tout ça. Mais Yann l'a dit, mais moi, je trouve que les défenseurs, là, quand tu arrives dans le national, il n'y en a plus. Même qui se prend la troisième paire, là, tout le monde est bon, tout le monde est gros, tout le monde est physique, tout le monde a un bon bâton. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est que justement, c'est bizarre à dire, mais c'est plus facile aussi, comme Yann a dit. Tout le monde est meilleur. Fait que si t'es à la bonne place, puis le gars va te voir. Fait que si t'es à la bonne place, tout devient plus rapidement de la prise d'information. Il faut que tu saches 2-3 jeux à l'avance qu'est-ce que tu vas faire, sinon ça va trop vite, t'es pas capable de prendre des décisions. Puis les gardiens de but aussi, là, dans le national, un petit peu plus difficile à battre un gardien de but sur un lancer là, de loin ou s'il n'y a pas de trafic en avant.
Toi, Yann, tu jouais avec les Bulldogs, tu sentais-tu un petit peu la pression quand même, puis vu que c'était le club école du Canadien de Montréal, tu te sentais peut-être un peu plus observé que dans d'autres clubs, exemple de la Ligue américaine?
Non, pas vraiment, honnêtement. Non? Surtout à l'époque, on retourne en 2008-2009, tu sais, comme côté médias, côté réseaux sociaux, il n'y en avait
c'était
pas vraiment
un peu,
à l'époque. Fait que, on était à Hamilton, c'était plus de l'avoir en tête un petit peu, d'être comme hey, j'aimerais donc ça jouer avec le Canadien, puis de penser à ça, mais on le ressentait pas vraiment. Là, okay. On était comme en banlieue de Toronto, fait que les médias là-bas, c'était pas la chose majeure. Ils en parlaient peut-être ici dans le Journal de Québec ou dans le Journal de Montréal, mais ouais. Comme tu étais à l'autre bout, tu vois pas ça.
C'est
aller,
ça qui est différent maintenant. T'sais, les clubs de la Ligue américaine, ils vont les mettre très près des clubs de la Ligue nationale. On le voit avec le Rocket de Laval. Puis toi, David, ça a été comment de gérer cette pression-là pendant tant d'années que le CH? T'as quand même été le premier centre pendant une couple d'années. T'as joué avec Pat Charity, avec Eric Cole, entre autres. Ça devait pas toujours être évident de jouer à Montréal.
Non. Ben, quand ça va bien, c'est le fun, mais quand le maire de Montréal est après toi, c'est une autre histoire.
Ouais, c'est vrai, on l'a oublié, celle-là. Ce qui intervient des fois dans le show, lui-là, c'est pas facile.
Ça dépend vraiment comment ça va, mais la pression, c'est sûr que je te dirais que encore aujourd'hui, quand je vais au Centre Bell, je ressens un petit quelque chose sur mes épaules, puis je suis même pas proche de jouer. Fait que c'est un building où est-ce qu'il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de fait que c'est pas évident, mais en même temps, c'est la meilleure chose au monde. Quand ça va bien, là, c'est tellement le fun de jouer à Montréal. Quand ça va moins bien, c'est un petit peu moins le fun, mais ça vient avec. Puis je pense qu'il faut que tu sois dans ta bulle. C'est drôle. On dirait que je me souviens à peu près de la moitié des choses que j'ai fait à Montréal à cause de ça, parce que j'étais tellement comme dans ma bulle où tu essaies d'effacer des choses que tu veux pas garder dans ta mémoire, puis t'es focus sur des choses, puis c'est ça. À Montréal, c'est comme ça, mais quand ça va bien, là, c'est vraiment la meilleure place pour jouer au hockey.
Puis vous avez quand même connu des bonnes séries au moment où t'étais là. Je me souviens de la finale de l'Est de 2014, l'incident exact. Price Kreider, on se souvient de ça, mais l'ambiance en série, ça devait être complètement fou. Vous êtes rendu jusqu'en finale de l'Est quand même, c'est pas rien.
Ouais, non, exact. Puis, tu sais, contre Boston, quand Piqué est sorti du banc de punition, puis marqué son but, là, c'est... Mm-hmm. C'est le moment le plus mémorable pour moi. Là. C'était tellement fort dans mes oreilles, c'était incroyable. Fait que ça s'en vient aussi, je pense. Là, dans les prochaines années, je pense que le Centre Bell va exploser quand ils seront en finale et ils gagneront une coupe, parce qu'ils sont vraiment incroyables à regarder présentement.
Bon, quand vous venez faire des entrevues avec moi, vous le savez, il y a toujours un petit côté potin. Là, je vais sortir ma question potin, les gars. Là. OK, là, vous avez peur un peu, mais n'ayez pas peur, les gars. On va commencer par Yannick. Toi, tu as eu comme coach Wayne Gretzky.
Ouais.
C'est pas une petite affaire, là. Raconte-nous ton expérience avec Wayne Gretzky. Comment il était, Wayne? Puis ton premier but dans la Ligue nationale, ça se peut-tu que tu as été un peu Speedy Gonzalez?
Oui, écoute, ça a été... Je l'ai raconté quelques fois, mais c'est sûr que Wayne comme coach, c'était pas Wayne comme joueur. T'sais, je pense que tout le monde...
C'est-à-dire?
Ben,
moi, je te vois le facial, mais je veux que tu l'expliques.
Ça. Ben, écoute, moi, quand j'étais là, je sentais pas... On s'était fait dire à l'époque qu'il avait demandé conseil à Scotty Bowman. Puis Scotty Bowman, il avait dit, pour coacher, engage-toi Barry Smith, qui était son assistant coach à Scotty Bowman. Puis Wayne, c'est ce qu'il avait fait. Mais c'était comme un petit peu, il était là plus pour le paraître, si je peux me permettre, Wayne, derrière le banc. C'était Barry Smith qui l'aidait beaucoup. Mais quand tu arrives là, surtout comme un gars comme moi, un call-up, puis t'es là pour une coupe de game, tu t'attends à ce que Wayne Gretzky ait une présence, puis tout ça. Puis tu sais, il y avait des pratiques que Wayne, il était assis sur le banc, il avait sa tuque, puis tu sais, comme c'était Barry Smith okay. qui lidait la pratique. Ah ouais,
c'était vraiment le marketing pour les Coyotes, là.
Ben, c'était un peu ça. Puis tu sais, il y avait, tu sais, à l'époque, Mike Barnett, qui était le directeur général, ben c'était l'ancien agent à Wayne. Tu sais, il y avait Grant Fuhr, qui était le coach des goalers. Il y avait, fait que c'était comme un genre de Wayne Gretzky Boys Club.
Ben, c'est peu, ça, c'était un Boys Club. Ben, voyons donc.
C'était une belle expérience, mais c'est certain que quand tu arrives dans une situation comme ça, un jeune qui veut faire sa place, bien, c'est plus tough. Là, Jeremy Roenick, il est bien fin, mais c'était tous des gars un peu comme ça. Là,
intimidant, Roenick, veut pas. Là,
plus vieux. Ouais. À l'époque, c'était pas la ligue d'aujourd'hui non plus. Là, les jeunes, ils n'avaient pas beaucoup dans une équipe. Là, fait que ça. Puis pour revenir à mon but, ben écoute, j'ai été rappelé, puis j'étais embarqué sur la glace, puis ça a pris 7 secondes, puis mon premier but. Fait que mon highlight, l'histoire que j'aime toujours raconter, c'est quand je suis revenu au banc, Wayne il m'a dit « Good job, même moi, j'ai pas fait ça aussi vite que ça. »
C'est bon.
Ben, ça s'est-tu vu souvent, ça?
D'après moi, c'est un record. Ouais. Ben,
officiellement, c'est pas un record parce que j'étais le deuxième chiffre, puis le record se calcule à partir du début de la game.
Okay.
Je pense le plus vite, là, je peux me tromper, peut-être ça a été battu, mais c'était Mogilny qui avait fait comme en 30 secondes, mais lui était sur le starting line-up, si tu veux. Okay. Mais comme ça, maintenant qu'on voit les breakdowns des chiffres, là, si tu veux, là, à 7 secondes, je serais pas loin d'être le plus rapide. Ben, en tout cas, plus vite que ça, je sais pas trop comment. Il y avait le gars du Canadien.
Il y avait un
kid aussi là, qui avait joué. Il était encore le capitaine, je pense, à le Rocket, là, Condotta. Il avait scoré vite aussi. Un de ses premiers chiffres là, de mémoire, là, quand il avait joué à Montréal, parce que son père, c'était un ancien collègue de travail. Puis je me suis dit, hey, il avait presque fait ça aussi vite que toi. Là, il avait scoré à sa première game. Fait que... Fait que c'est ça avec le beau...
C'est impressionnant pareil, dans 7 secondes.
Mais, hein.
Ta blonde a dit ça aussi, que tu fais...
C'est vite, hein? Avec ta blonde, t'as-tu battu 7 secondes?
Ben, c'est sûr que c'est déjà arrivé, là. Ça nous est tous déjà arrivé. Arrêtez de faire vos machos.
Je vous invite ce soir. Dis-le-moi,
là, c'est extraordinaire. Je serais pas tout seul. Okay.
Ça, c'est quand vous reveniez de 10-12 games, là, sur la route, c'est ça? C'était 5 secondes, c'est ça?
Exactement.
Bon, là, tu viens de m'ouvrir l'esprit, David, pour le potin à toi, là, mais parle-nous un peu de Piqué Souban. Parce que comment il était Piqué Souban? Puis là, je sais que toi, tu es un gars, tu n'es pas gêné, tu vas nous dire comment ça se passait avec Piqué Souban.
Ben, Piqué, c'est un très bon gars. Je pense que je suis le gars qui a joué le plus avec, en fait, parce que j'ai joué avec dans la Ligue américaine avec lui. Sa première année au complet. Quand il s'est fait rappeler, après ça, moi, je me suis fait rappeler pas longtemps, puis on a exactement le même nombre de matchs à Montréal ensemble. Fait que je le connais très bien. C'est un super de bon gars. C'est un bon vivant, les gars. Tout le monde qui arrivait, mettons, d'une échange, après un mois, était comme, voyons, Piqué et Crime, les gars, c'est vraiment le fun. Je sais pas pourquoi que c'est une distraction ou que que vous l'aimez un peu moins. Puis après 3 mois, était comme, ah, OK, ouais, finalement, je comprends.
Je comprends.
Mais il y avait ça avec certains joueurs que ça cliquait peut-être un peu moins.
Je niaise un peu, mais pour vrai, c'est un très bon gars. C'est un gars qui était... C'est sûr qu'il est axé un petit peu sur lui, mais bon, je pense qu'on l'est tous un petit peu rendu où est-ce qu'on est rendu. On veut performer, on est un peu tout selfish, mais c'est un bon vivant. Puis c'est juste qu'à un moment donné, je pense que pour Montréal, comme tous les gars qui sont passés là, quand tu deviens un petit peu plus gros que l'équipe, ça marche pas. Puis je pense que c'est un petit peu ça qui est arrivé. Mais en tant que joueur de hockey, moi, là, c'est un des très bons joueurs que j'ai vu. Puis quand on était dans la Ligue américaine ensemble, je lui disais tu vas être une star dans la Ligue nationale. Puis comme de fait, c'est ça, tu sais, c'est. Quand il allait là, contre Boston dans ses premières années, chercher la rondelle en arrière, puis t'avais des gars comme Milan Lucic qui essaie de t'arracher la tête, puis il tassait avec un bras, puis il arrivait, puis il prenait des one-timers, puis il aime le spotlight. Tu sais, pour jouer à Montréal, il faut que t'aimes avoir le spotlight, puis il aimait ça avoir le spotlight, il aimait ça changer, être capable de changer un match, puis c'est un excellent joueur de hockey, là, fait que moi, j'ai rien à dire contre ce gars-là.
Mais Dave, quand tu parles de spotlight, moi, c'est drôle, on n'en a jamais parlé ensemble, mais moi, dans l'échange Weber, je comprends qu'est-ce que Weber amenait. Mais une chose que moi, j'ai toujours pensé qui avait été sous-estimée dans cet échange-là, c'est le media attention que Piquet était capable de prendre, que les autres gars comme, tu sais, Pacioretty, Price, d'autres gars, qu'ils n'aimaient pas bien ben ça, avoir le micro en dessous du nez quand ça allait mal ou dans d'autres moments, que cette portion-là, Piquet, il était capable d'en prendre plus que n'importe qui. Puis moi, j'ai toujours trouvé que, tu sais, il y avait comme une genre de petite magie avec lui. Puis Price, après les games, il y avait leur genre de petite routine quand ils gagnaient, puis tout ça. Puis moi, je comprends que sur la glace, là, comme joueur pour joueur, peut-être que Weber, il était peut-être plus efficace d'un certain sens que Piqué. Mais moi, à l'époque, puis je me maintiens encore, moi, je pense pas que ça a été une bonne échange. Puis je pense même pour Piqué, je pense... Il aurait été meilleur encore pendant plus longtemps.
Avec le Canadien.
C'est vrai que ça a comme tendu un peu sa carrière.
Ouais. Non, c'est sûr. Puis j'avais vu son père après que ça soit fait échanger. Puis il m'avait dit que ça l'avait vraiment brisé. Là. Puis qu'il a comme jamais, je pense, accepté ce trade-là. Mais pour revenir à cet échange-là, si on regarde, mettons, un gars comme Nick Suzuki, si on le regarde aller là, dans ses entrevues, puis comment il est comme personne. Je pense pas qu'il a appris ça de Piqué Subban. Il a appris ça d'un Shea Weber.
Ben oui.
c'est comme ça qu'un capitaine, je pense, doit se comporter. Puis Piqué, autant qu'on l'aime, tout ça, je pense pas que c'est un capitaine qui a le matériel pour être un capitaine. C'est un gars que tu veux dans ton équipe, c'est un gars que tu veux dans tes leaders, mais c'est pas quelqu'un. Tu peux pas avoir un gars comme ça, comme capitaine trop flamboyant et tout ça. Fait que,
tu sais la rumeur, David, la rumeur là, que Piqué et Pacioretty dans la chambre, là, c'est-tu vrai à ça ou ben donc?
Ben non, mais tu sais, c'est juste que je pense qu'ils ont fait une grosse histoire aussi avec ça, dans le sens où les deux se bataillaient pour le capitaine. Puis il y avait comme une petite bataille entre eux autres sans le vouloir, dans le fond. Là, c'était les deux leaders, puis là, il fallait qu'il trouve un capitaine, puis là, ben, Piqué est fan de nation, puis tout ça. Fait que je pense, non, c'était pas. Tu sais, on joue quand même ensemble, faut aller à la guerre ensemble. Ouais. Fait que non, il n'y avait pas. Il n'y avait rien là.
Puis toi, ça a été comment quand t'as appris que t'étais échangé aux Oilers Edmonton? Ça s'est passé le 28 février 2017 de ce que je vois ici. Ouais. T'avais été échangé aux Oilers. Je pense que c'était en fin de saison que ça s'était passé au mois de février. Ça a-tu été un choc pour toi aussi?
Ben, c'était pas un choc parce que je savais que ça s'en venait. Là, ça faisait comme 3-4 games que je jouais pas, mais quand tu le sais, c'est un choc, mais quand ça arrive, ben c'est effectivement un autre choc. Puis je suis arrivé à l'aréna, Marc Bergevin, j'ai reçu un appel de Marc Bergevin, fait que ça fait 2+2. Tu sais que ça s'en vient. Là, j'espérais juste que ça soit dans une place pas pire, fait que il est venu me voir, il m'a donné un câlin, il a dit merci pour tout, puis bonne chance. Puis là, il dit t'es changé aux Oilers Edmonton. J'étais comme ah non, pas les Oilers.
T'en as parlé tantôt de Lucic. Il était là, lui, hein? Je pense à Edmonton.
Effectivement, je suis allé rejoindre McDavid, Draisaitl, puis surtout un aréna qu'on n'avait pas joué là encore, mais c'est la première année de l'amphithéâtre là-bas qui était incroyable. Fait qu'à ma grande surprise, les installations étaient wow, c'est ce qu'on n'avait pas joué encore là cette année-là, donc j'étais pas j'étais pas au courant, puis ça a été finalement un super bel échange. C'est ça, t'as des gars comme Lucic, première pratique que je m'en vais là. Big Luch, il se lève après, il dit « Ah là, y a-t-il le monde qui va aller dîner? » Puis je suis comme « Ben ouais, moi je vais y aller. » Tu sais, on a tellement joué contre, des grosses rivalités, puis là, on s'en va manger ensemble, puis il me dit « Hey, j'ai essayé ça, jouer contre toi, puis ça. » J'étais comme « Ok, ben là, Luch, c'est drôle que tu me dises ça, mais j'haïssais pas mal plus ça jouer contre toi parce que t'es un monstre. » Fait que, tu sais, c'est ça qui est le fun au hockey. On a beaucoup de respect. Puis tout ça pour dire que ça s'est bien terminé là, avec les Oilers. On a passé une série. Puis j'ai pu côtoyer un gars comme Connor McDavid puis Leon Draisaitl qui sont des joueurs exceptionnels.
Ben ouais. Il nous reste une minute, à peu près une minute et demie. Je vais finir avec toi, Yann, parce que bravo, là, c'est parce que passé samedi. On boucle la boucle.
Oui.
Le meilleur entraîneur que tu as eu dans toute ta carrière, c'est qui? Lequel t'a marqué le plus? Tu as quand même eu, t'as eu Wayne Gretzky, mais Bonnes, t'as eu aussi Tankett.
C'est sûr que c'est Richard Martel.
lui qui m'a fait le plus jouer, c'est sûr, c'est Richard.
Ouais.
Mais j'ai eu Bruce Boudreau mes trois premières années professionnelles. Puis c'est drôle parce que, étrangement, de par mon style de jeu, plus offensif, tu sais, comme je fitais bien avec Bruce Boudreau, mais toute ma carrière, j'ai eu des Richard Martel partout où je suis allé. Fait que des gars super intenses, tu sais, comme limite, j'ai eu Kevin Constantine qui avait une réputation aussi dans l'époque avec les Penguins de Pittsburgh. J'ai toujours eu des coachs complètement capotés, tu sais, fait que ça a été toujours un peu.
C'est-tu motivant ou à la longue, ça vient
tough? Pour moi, c'était pas un bon fit, tu sais.
Non, OK.
Moi, j'ai besoin d'un coach qui me fait confiance, qui me laisse jouer parce que mon style de jeu, écoute, on pourra en reparler avec David, il pourra m'analyser là, dans un autre dans une autre entrevue, mais comme j'ai besoin qu'on me laisse jouer, puis dans ce temps-là, c'est comme je pense que je deviens encore meilleur, mais quand je suis comme pris dans un genre de moule, ça fitait moins. Là, fait que Bruce Boudreau il me laissait jouer, puis j'avais eu des bonnes saisons, ça avait été bien le fun.
David, en 30 secondes, toi, ton meilleur entraîneur? C'est-tu Michel Therrien?
C'est Randy Kenneworth?
Non, je veux dire Guy Boucher qui était avec nous à Hamilton juste avant que je me fasse rappeler, en fait, qui m'a fait un peu plus croire en moi puis me dire que justement la prochaine étape, c'est la Ligue nationale puis que j'étais capable. Fait que Guy Boucher était mon meilleur entraîneur.
En tout cas, ça vous tente, les gars, les Canadiens vont arriver en série. Ça pourrait être le fun, peut-être, de vous réinviter les deux. On parlera plus de vraiment hockey, là, en tant qu'analyste. Merci d'avoir pris du temps avec nous, David, comme ça, pour venir saluer ton body.
Merci encore de l'invitation. Félicitations, Yann.
Yes, ouais. Merci, mon petit Dave.
Bravo, Yann, pour ta carrière. Puis j'espère que samedi, tu vas avoir quelque chose, tu vas ressentir quelque chose de fort. Puis je suis sûr que les gens qui vont être présents samedi soir vont te le faire ressentir, qu'ils ont apprécié tout ça.
Ben écoute, c'est le fun. T'sais, quand Jim m'avait parlé de ça, au début, j'étais un peu mal à l'aise parce que on dirait de te faire dire, on va souligner. On dirait que c'est pas quelque chose que tu t'attends ou que tu veux avoir. Mais quand j'avais pris ma retraite en. Ma première retraite, c'était comme, j'avais pas de contrat qui me tentait, c'était un peu comme un moment que tu dis, je sais pas trop, puis finalement, j'arrête. T'sais. Fait que ça n'a pas été vraiment comme officialisé, je sais pas comment le dire, là, tandis que là, c'est comme plus officiel. Fait qu'on dirait que ça, quand il me l'a proposé après réflexion, j'étais comme, ça va comme quand même bien clore tout ça, là, puis une belle façon de tourner la page, puis... encore impliqué avec le national. Fait que, c'est pour moi, c'est le fun de le faire avec le national. Puis là, il faut que les gens.
T'as toujours été disponible, les entrevues. Puis même, on a fait des concours avec des auditeurs. T'étais là. T'étais un des premiers d'avant. Mais PC aussi à mettre le monde en évidence. Bravo. T'es un super humain en passant.
Ben, merci.
Là, t'es dans la politique, la star. Là.
Ben là, j'ai essayé. J'ai essayé un petit coup. Là, il y a des gens qui aimeraient ça que je me représente.
Oui.
À l'automne.
Oui.
Faudra voir. Là,
J'espère que ça va être dans la bonne équipe, là, cet automne.
Écoute, faudra voir que j'ai eu certaines équipes que t'aimes qui m'ont contacté, mais je sais pas trop encore qu'est-ce que ça va.
Bon, ben, je vais pousser fort, moi, là. Merci beaucoup pour tout. Puis salutations aussi à Jimmy Gagné, le propriétaire. Ben, l'un des propriétaires du National.
Ouais.
C'est un super humain, ça aussi.
Oui, vraiment, une belle gang. Puis il faut que les gens répondent à l'appel. Les boys ont besoin de vous samedi. Puis on va closer ça, cette série-là. On va aller gagner ça.
Merci. Bye.
Merci.
Le retour de Radio X.
Téléphone, texto. 418-670-9098.
Radio X.